France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En octobre 1969, après avoir tourné en province, la mise en scène du Misanthrope de Marcel Bluval, dont Michel Piccoli était l'Alceste, était reprise à Paris au Théâtre de la Ville. C'était l'occasion pour Moussa Abadi de proposer à Michel Piccoli un entretien au cours duquel il revenait sur son parcours de plus de 20 ans de comédien de théâtre. Il avait alors déjà croisé la route d'Audiberti, de Villard, de Barrault, celle de Jean-Marie Serrault, de Claude Régis et de Peter Brook. C'était avant Coltès, Chéreau, Luc Bondy, Klaus Michael Gruber, Bob Wilson. À 44 ans, interrogé sur les rôles qu'il aimerait jouer, Michel Piccoli disait rêver du roi Lear. Il attendra d'avoir plus de 80 ans pour le faire en 2006, un peu trop tard peut-être, dans une mise en scène d'André Engel. D'ailleurs, avec son dernier rôle, avec la dernière pièce qu'interpréta Michel Piccoli, le roi Lear ne le quittait pas. Encore une fois le jouer, une fois rien qu'une, et puis plus, c'était dans Minetti de Thomas Bernhard et toujours dans une mise en scène d'André Engel. Minetti, un peu trop tard sans doute, mais comme nous entendrons Michel Piccoli le dire magnifiquement, entre théâtre et cinéma, le théâtre sans hésiter, tant que j'aurai la force de me faire entendre. Entretien avec Michel Piccoli au micro de Moussa Abadi, une émission diffusée la première fois le 9 octobre 1969 sur France Culture.
Je suis né à Paris, dans le 13e arrondissement, le 27 décembre 1925. Mon père est violoniste, il était au concert Colonne, entre autres, et ma mère pianiste.
Et vous avez fait vos études dans des collèges privés au début?
J'ai d'abord fait mes études à l'école alsacienne, à une école communale à l'école alsacienne, et puis après j'ai été pensionnaire dans des écoles pour privilégiés et enfants difficiles.
Oui.
Et puis, la guerre est arrivée, j'ai suivi un collège, ce même collège d'Anel, qui a fait l'exode, qui s'est retrouvé à Orléans. Après, je suis revenu à Paris, au collège Sainte-Barbe. Je m'occupais plus de la sortie du journal Comédia le jeudi matin que de mon cours de mathématiques.
Vous vous occupiez du journal Comédia?
Je m'en occupais pas. Je veux dire, j'attendais sa sortie avec impatience. Et
Parce que déjà, vous vous intéressiez au théâtre.
Oui, ça a commencé. C'est une nostalgie d'enfance, le théâtre. Quand j'ai commencé à jouer la comédie, c'était en fait dans des fêtes de fin d'année de ce collège Sainte-Barbe, où il y avait des représentations théâtrales, je crois, assez bien organisées dans ce genre de manifestation pour enfants amateurs. Et c'est là la première fois que je me suis imposé, qu'on m'a pris en considération. C'était jamais ni dans les classes, ni à la maison où j'étais plutôt sauvage, mais sur scène, on a dit, tiens, ce petit, il se révèle être quelque chose. Ce qui m'a donné un coup de fouet à mon existence. Je me suis dit, ben, je peux être remarqué quelque part.
Alors en faisant vos
études
secondaires...
Ça aurait pu être là ou sur un terrain de basket que je fréquentais beaucoup aussi.
Oui, alors en faisant vos études secondaires, vous rêviez déjà de vous consacrer plus tard.
Je ne savais pas encore que je m'y consacrerais, mais c'était resté pour moi une espèce de souffle comme ça. C'était un peu un rêve, une vision.
Oui, mais vous avez terminé vos études secondaires.
Très mal, oui, péniblement. Au premier bac et pas le second.
Vous avez pris des cours d'art dramatique?
Oui, j'ai tout de suite, dès que mes parents ont accepté que je fasse du théâtre, ils m'ont mis dans un cours, parce que c'est quand même plus sérieux. Et là, dès que j'ai mis les pieds dans ce cours, j'ai commencé à travailler. De 9h du matin à 8h du soir, je travaillais comme jamais je n'avais travaillé dans aucun cours précédemment.
En quelle année avez-vous débuté au théâtre?
En 46.
En 46.
Oui. Je jouais une pièce qui s'appelait Le Jugement Dernier ou Le Dernier Jugement. Pardon à l'auteur, je ne me souviens plus de son nom. Le sujet était Les hommes montés au ciel pour juger Dieu. Et je jouais là deux rôles, je me souviens. Le rôle d'un jeune chômeur et le rôle d'un vieillard.
Et après ce jugement dernier?
Après ce jugement dernier, où je me suis fait engager. Par culot, enfin, j'ai été me présenter, j'ai passé une audition. C'était Dooking qui montait la pièce, ou qui avait fait les décors, ou les deux. Enfin. Et là, j'ai Après, je n'ai pas cessé de travailler. Beaucoup avec Dooking, d'ailleurs.
Et c'est en 1948 que vous avez joué le matériel humain de Paul Reynal, je crois.
Oui, c'est la première fois que j'ai joué dans une pièce qui a eu... C'était une vraie pièce, un vrai théâtre. C'était moins bohémien que ce que j'avais fait avant.
C'était dans quel théâtre ?
C'était au théâtre de la Renaissance.
Oui. Est-ce que ce n'était pas la compagnie Jean d'Arcante ?
C'était d'Arcante qui était directeur, oui. C'était même la compagnie Jean d'Arcante. C'est lui qui l'avait mise en scène.
Oui. Et depuis le matériel humain, vous avez joué environ combien de pièces ?
Je crois une cinquantaine.
Mais vous avez un répertoire très très riche et très éclectique. Vous avez joué Alfred Jarry, Courteline, Bernard Shaw.
Oui, Audi Berti,
Christopher Fry.
Constance Colline,
Jacques Deval,
Strindberg,
Jean Anouilh, Georges Arnaud.
Ionesco, Georges Arnaud.
Qu'est-ce que vous avez joué de Ionesco ?
Ionesco, c'était à la télévision.
À la
télévision. Une pièce qui s'appelle Elia 2, mais enfin, qui était une pièce de théâtre qui Finalement, c'est toujours du Ionesco, c'est toujours une pièce de théâtre, sauf qu'elle a été projetée sur un petit écran.
Oui. Et vous venez de reprendre au Théâtre de la Ville, comme on vient de le dire, le misanthrope dans la mise en scène de Marcel Blouval. Vous savez que votre interprétation et la mise en scène de Blouval a suscité des commentaires très passionnés. Les uns ont reçu la pièce avec joie, avec enthousiasme. D'autres ont couvert cette mise en scène de sarcasme.
Il y a trois réactions. On a d'abord joué ça en province pendant un an, et c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche. Les spectateurs de province sont plus naïfs que les spectateurs de Paris, et ils connaissent moins le misanthrope. C'est très peu joué, finalement, le misanthrope. C'est joué à la Comédie française, et hélas, la Comédie française ne le joue pas assez en province. Alors, il y a eu ces spectateurs qui ont découvert le texte. Je ne dis pas qu'ils ont découvert la pièce par notre représentation exceptionnelle, non. Ils ont vraiment découvert le texte. Il y a aussi des universitaires, des professeurs ou des étudiants qui nous ont dit avoir vraiment découvert le texte. Et puis, il y a les gens de Paris qui sont et plus savants et qui sont peut-être plus respectueux de la tradition dans laquelle doit se jouer Molière, qui ont été très choqués. Ils trouvent que l'on ne joue pas la pièce, que l'on a fait de cette pièce. Eux-mêmes ne savent pas d'ailleurs si ça doit être comique, si c'est une comédie, on ne saura jamais avec Molière. Mais ils trouvent qu'on a donné au personnage d'Alceste, entre autres, et à tout le sujet de la pièce, une pesanteur et
une dimension tragique
et freudienne et psychanalytique qui n'a aucun rapport avec ce qu'avait voulu écrire Molière. Et je suis persuadé que Molière était aussi trouble et aussi angoissé que pourraient l'être les auteurs de nos jours.
Oui. Mais pour vous, qui est Alceste ?
Pour moi, c'est un solitaire avant tout. C'est un solitaire qui se débat contre le milieu dans lequel il vit, qui se débat contre lui-même parce que il est né et il vit complètement. C'est un oisif, il vit dans ce milieu aussi. C'est une espèce de Don Quichotte aussi. Un personnage qui a une espèce de soif d'absolu, mais qui, dans le fond, est également d'un orgueil, d'une suffisance de lui-même, épouvantable, ridicule, atroce. Et c'est pas du tout le personnage aimable et généreux que l'on veut bien nous faire apprendre. Peut-être que je me laisse trop aller à cette idée que l'on s'est faite du personnage qui est, dès le départ, prisonnier et qui veut perpétuellement s'échapper comme un papillon de nuit contre une lampe électrique. Vous savez, il vient toujours se cogner
et il ne trouve pas
la sortie. Même quand on lui ouvre la fenêtre à ce papillon, quelquefois il met très longtemps à trouver l'air libre, l'endroit écarté où on peut vivre en toute dignité, en toute liberté.
Savez-vous ce que Marcel Blouval a voulu démontrer en faisant cette mise en scène ?
Il a voulu démontrer surtout la difficulté que les gens ont de vouloir sortir d'une société qu'ils n'approuvent pas. On lui reprochait aussi d'actualiser un peu trop la pensée de Molière. Au lieu de dire vouloir s'évader d'une société, on dit maintenant contester une société.
Oui.
Mais finalement... Les mots sont différents, mais le thème est le même.
Oui, et la présentation d'une pièce comme Le Misanthrope dans des costumes modernes, qu'est-ce que ça apporte à la compréhension du texte, selon vous ?
On a fait ça pour que, justement, il n'y ait plus aucune réminiscence, aucun souvenir, aucun embarras historique ou vestimentaire, pour...
Mais le texte est là pour nous le rappeler.
Oui,
quand
bien
on
sûr,
parle,
ça.
Quand on dit du marquis qui vient du Louvre ou de la cour...
Oui, mais la cour peut-être... Il y a des cours encore oui. de nos jours.
Oui.
Sans pour autant que ce soit la cour oui. de l'État.
Et que deviennent alors vos rubans verts avec cette tenue que vous avez ?
Oui, ça c'est une erreur qu'on peut reprocher, mais je trouve que... d'avoir des rubans verts, une vaste ringle grave ou une perruque blonde...
N'ajoute rien.
N'ajoute rien, et de nos jours, il y a des gens qui ont l'équivalent d'une perruque blonde, de vaste ringle grave, de canon, de... Je trouve que c'est un détail que l'on peut ignorer.
Oui.
Je trouve que, par rapport au texte même de Molière, c'est une infidélité. Mais... finalement, ces vastes reins graves et ces détails vestimentaires sont de tous les temps. Nous, on ne les présente pas, évidemment.
Oui, mais jusqu'où un metteur en scène qui s'attaque à une œuvre du répertoire peut-il aller trop loin ?
Ah, moi, je trouve qu'il ne doit pas aller trop loin. On ne doit pas trahir un auteur. Je suis persuadé que nous ne l'avons pas trahi. Quand on dit que j'interprète d'une façon trop freudienne ce personnage... il est dit dans le texte à un moment, mes sens par la raison ne sont plus gouvernés.
Et vous en concluez qu'il est à la limite de la folie.
Mais il le dit. Pour certaines personnes, on a trahi Molière, pour le public, non. Et je ne crois pas que vis-à-vis du public, on trahisse Molière. On a vraiment eu beaucoup de réactions où les gens ont dit, on découvre une pièce.
Marcel Blouval dit aussi que le Misanthrope, c'est le constat d'échec d'un homme qui n'arrive pas à sortir de son monde.
C'est ça, tout à fait. Et c'est le cas de Molière aussi. On sait que Molière était... qu'est-ce qu'était Molière, finalement ? À son époque, dans son époque, c'était un homme révolté, c'était un auteur, comme on dit maintenant, à scandale, qui est rentré dans la bonne voie. Lui-même, sa vie était une vie d'homme passionnel et déchiré. Il a une vie très... très malheureuse, très difficultueuse.
Oui. Mais s'agit-il vraiment, dans le cas d'Alceste, d'une maladie mentale, comme le prétend Bluval ?
Bluval est un excessif. Bluval...
Mais il le dit en clair.
Il le dit en clair,
c'est
oui.
C'est une analyse précise et cohérente d'une maladie mentale. Alceste, c'est un anxieux a priori.
Vous savez, je crois que tout homme est anxieux. Vous ou moi, ou Molière, ou Bluval, ou Alceste...
Oui, mais vous jouez...
à des degrés divers.
Une scène du Misanthrope comme si Alceste était réellement fou.
Oui, il est fou d'amour et il est fou d'isolement. Fou de solitude.
Ça n'est pas la première fois que vous vous attaquez à un des grands personnages du répertoire du théâtre de Molière, puisque vous aviez joué avant à la télévision le Don Juan de Molière.
Oui.
Ça a été un immense succès.
Oui, ça a été aussi, je trouve, une grande réussite, en sens que, depuis la création du Don Juan, on avait calculé qu'il y avait eu 1 million, à peu près, de spectateurs depuis 1665.
Oui.
Dans les divers théâtres qui ont été joués.
Et en une seule soirée, vous avez
touché. Et en
une
seule soirée, les gens ont écouté cette pièce, qui est une des plus belles œuvres de la langue française.
Et du répertoire classique.
Oui. Et je trouve que ça, c'est un bien.
Qui est Don Juan pour vous ?
C'est un suicidaire pour moi.
Un suicidaire ?
Oui. Pour moi, ce sont les dernières 24 heures de la vie d'un homme. On pourrait faire beaucoup de rapprochements, d'ailleurs, entre Don Juan et le Misanthrope. Sauf que le Misanthrope se débat, tandis que le Don Juan ne se débat même plus. C'est la fatigue complète. C'est l'abandon. Il va à la dérive, mais avec une grande rigueur. Il sait qu'il y va. Il y va volontairement.
Vous avez dit un jour que pour vous, Don Juan, c'est l'angoisse. De quelle angoisse voulez-vous parler ?
L'angoisse
métaphysique.
Totale, l'angoisse métaphysique, l'angoisse devant son père, l'angoisse devant les femmes.
Devant la difficulté d'être ?
Oui, complètement.
C'est un homme.
Il est beaucoup question de Dieu aussi dans Don Juan. C'est bien pour ça que cette pièce a été.
Et pas du tout dans le Misanthrope.
Non. Non. Sauf que tout de même, il y a une phrase très importante que dit le Misanthrope à Célimène. Il dit : c'est pour mes péchés que je vous aime ainsi.
Vous avez débuté au cinéma en 1946 aussi.
Oui.
Dans des courts-métrages.
Dans des courts-métrages. Oui, c'était la suite, c'était la queue de la belle époque de La Rose Rouge.
Avec Yves Robert.
Avec Yves Robert.
Et depuis, vous avez tourné combien de films ? En gros, une
trentaine. En gros, 25, 30, je ne sais pas exactement. Mais je n'aime pas beaucoup.
Compter.
Compter. Ça devient un peu inquiétant.
Vous avez tourné avec les metteurs en scène les plus importants de notre époque, les plus chevronnés. Vous avez tourné avec Buñuel, vous avez tourné avec Godard, avec Melville,
oui,
avec,
mais
Corel,
j'ai eu
avec
deux,
Agnès Varda.
J'ai eu deux périodes de cinéma, si je puis dire.
Jusqu'en 62.
Oui, avant je faisais du cinéma. Je ne savais pas très bien ce que c'était le cinéma. Je m'étais lancé comme un fou dans le théâtre.
Et puis vous n'aviez pas un emploi bien défini au cinéma.
Je n'avais pas d'emploi défini. Je n'étais ni jeune premier, ni... J'étais un jeune homme un peu informe, un peu ingrat. Et j'ai fait du cinéma parce qu'on... Je me suis fait engager, d'ailleurs, pour faire du cinéma, où on m'a engagé. Je ne savais pas très bien ce que c'était. Et puis j'étais rentré dans une mauvaise filière, dans le cinéma. Je ne renie pas du tout ce que j'ai fait, mais...
Quel est le film qui a marqué, comme on dit, un tournant dans votre carrière au cinéma ?
C'est finalement le Doulos de Melville.
Mais avant, vous aviez tourné un film avec Buñuel, La mort en ce jardin.
Oui, qui était un des films... C'était pas un film très réussi de Buñuel, et c'était encore l'époque où Buñuel n'était pas...
Oui, mais la rencontre avec Buñuel, c'était tout de même très important.
Oh, c'était capital, c'était... Je n'aurais même tourné que La mort en ce jardin avec Buñuel, que ça m'aurait suffi.
Comment avez-vous fait la connaissance de Buñuel ?
Par culot. Je jouais à l'époque, Michel Deray avait monté un spectacle dans lequel il y avait une pièce de Georges Arnaud qui s'appelait Les aveux
les plus doux.
Il y avait trois pièces, une pièce de Salacou et une pièce d'André de Richaud. Et je sentais très bien, je savais très bien que ce genre de pièce pouvait plaire tout à fait à Buñuel, enfin que c'était dans son monde. Et je connaissais Marcel Camus, qui était assistant à l'époque, qui était assistant de Buñuel. Et j'ai demandé à Marcel Camus de bien vouloir faire venir Buñuel au spectacle pour me faire connaître de Buñuel, parce que j'étais fasciné par Buñuel. Et quand on est jeune acteur, il faut faire un métier de représentant, c'est-à-dire... ou essayer de faire venir les gens pour qu'ils vous voient, ou essayer de se montrer aux gens.
Et il est venu.
Et il est venu, oui, mais par un chemin d'une politesse et d'une délicatesse incroyable, il m'a dit « écris à Buñuel ». Je ne lui ai pas écrit à Buñuel, il va mettre la lettre au panier. Pas du tout, je lui ai écrit. Et il m'a répondu par télégramme en disant qu'il viendrait tel jour. Et le jour auquel il devait venir, il a renvoyé un télégramme en s'excusant de ne pas pouvoir venir. Et il a, la même journée, téléphoné pour être sûr que le télégramme était bien arrivé. Ça, c'est toute une partie de Buñuel qu'on ne soupçonne pas, qui est un homme d'une correction, d'une politesse et d'une attention extraordinaire, assez rare dans notre profession.
Cela dit, le film le plus
et
important...
Et Buñuel est venu
ça a,
au...
Ça a été le départ, le grand départ, ça a été avec le Doulos.
Après, oui, avec le Doulos.
C'est un film de...
De Melville. Et c'était juste une scène... Et c'était à une époque où on ne me demandait plus du tout au cinéma, parce que, hélas, les films que j'avais faits n'avaient pas marché du tout, et que moi-même, je n'avais pas imposé grand-chose. Et je me suis dit, je vais recommencer comme si je n'avais jamais fait de cinéma, tant pis.
C'est de cette époque que date votre démarrage au cinéma.
Oui, c'est de cette époque, mais j'avais changé, j'avais vieilli.
Vous aviez mûri.
J'avais mûri, et j'avais aussi appris ce qu'était une caméra grâce à la télévision. Parce que la caméra fait peur. La caméra fait très peur.
Et à part Buñuel, quels sont les metteurs en scène au cinéma qui vous ont aidé, qui vous ont marqué ?
La seconde chose qui m'a aidé beaucoup, c'est Le Mépris avec Godard.
Ouais.
J'ai une grande passion pour Godard. Je regrette que maintenant, il parte dans je ne sais quelle nuée. C'est assez triste.
Alors, Buñuel et Godard sont les deux metteurs en scène qui vous ont le plus apporté.
Sûrement, oui.
Pour en revenir à votre carrière au théâtre, je voudrais rappeler que vous avez d'abord joué dans la compagnie Grenier-Husneau.
Oui.
Vous y avez joué Orion le Tueur,
oui.
De Maurice Fombeur.
Oui.
La Parade, c'était dans le même spectacle, La Parade et Orion le Tueur.
Oui.
Et vous y avez joué aussi Les Gaîtés de l'Escadron, de Courteline.
Oui.
Et c'était à la fin de la compagnie, je crois.
C'était un peu à la fin. Un peu à la fin, un peu à la fin.
Oui. Et vous avez travaillé également avec Jean-Marie Serrault.
Oui, au Théâtre Babylone.
Vous avez pris part, une part importante, à l'aventure du Théâtre Babylone. Vous avez même été administrateur à un moment donné du Théâtre Babylone.
Administrateur, c'est beaucoup dire. Nous étions toute une équipe. En fait, les trois créateurs du Théâtre de Babylone, c'était Jean-Marie Serrault, Éléonore Hirt et Philippe Grenier.
Roger Blin aussi.
Non, c'était les trois créateurs. Roger Blin est venu après
avec
monter Godot.
C'est ça.
Mais en fait, Blin a fait les beaux jours du Babylone, parce que c'est grâce à Godot que le Babylone
a marché,
si l'on peut dire. Enfin, on se souviendra du Babylone, en tout cas, entre autres grâce à ça.
Ça a été un centre de création extraordinaire. Ce que Jean-Marie Serrault a fait au Babylone, personne ne peut l'oublier.
Absolument, absolument.
Vous y avez joué une pièce de Strindberg, Mademoiselle Julie, justement, avec Éléonore Hirt.
Oui.
Vous y jouiez le domestique.
Oui, c'était un metteur en scène suédois qui était venu monter cette pièce. Oui. Sundström, qui est maintenant directeur du théâtre de Stockholm.
Qu'est-ce que vous avez joué avec d'autres au Théâtre Babylone?
J'avais joué aussi un acte de Strindberg. Je ne me souviens plus le titre.
Est-ce que vous avez été mis en scène par Jean-Marie Serrault?
Oui, dans une première pièce, dans la pièce qui a inauguré le Théâtre Babylone, qui s'appelait Spartacus.
Oui.
Qui était un échec épouvantable.
Vous avez travaillé également avec Jean-Louis Barrault.
Oui.
Vous avez
j'ai inauguré finalement pas mal de petits théâtres, j'en suis assez fier.
Le Petit Marigny.
C'est le Petit Marigny.
Vous avez joué Irène Innocente.
Irène Innocente du Bobetti.
Très, très belle pièce
du
Bobetti.
Oui, oui. C'était Clavel qui avait adapté ça.
C'est ça. Et vous avez joué une pièce de Georges Chiadet, La Soirée des Proverbes.
La Soirée des Proverbes. C'est avec ça, d'ailleurs, que le Petit Marigny avait été inauguré.
Et du Gobetti, vous avez joué une autre pièce, La Reine et les Insurgés.
La Reine et les Insurgés.
Avec Edwige Feuillère.
Avec Feuillère, au Théâtre de la Renaissance, qu'avait monté Witold.
Vous avez été aussi au TNP pendant une saison.
Une courte saison. C'était Phèdre qu'a monté Villard, avec Maria Cazares. Ça n'a pas été une réussite non plus, une grande réussite.
Oui, mais de travailler avec Villard tout de même, c'était important pour vous.
Très important. C'était d'autant plus important que c'était un peu cocasse. Car que Villard me demande de jouer Hippolyte, alors que je n'ai pas, absolument pas mon emploi, je me suis permis de penser, quand il me l'a demandé, mais quelle folie. Et je me suis dit, comme je ne jouerai jamais ce personnage de ma vie, puisqu'il me le propose, tentons, il faut tenter ça.
Et vous l'avez tenté.
Oui.
Vous avez joué également une pièce qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, Le Vicaire de Ralph Hurt.
Oui, ça c'était... Est-ce que c'était une pièce? Oui, puisqu'il y avait un dialogue et qu'on parlait sur une scène.
Oui. J'ai oublié le rôle d'un SS.
Le SS, oui.
Gerstein.
Donc, il vient de sortir un livre d'ailleurs sur ce Gerstein, qu'on appelait le fou de Dieu, qui était le serviteur de Dieu à travers... On n'a pas éclairci non plus ce mystère. Finalement, tous ces personnages excessifs, que ce soit... Alceste ou le SS Gerstein, on pourra longtemps écrire sur eux sans trouver la solution.
Vous avez vraiment un très beau répertoire, un répertoire d'un théâtre de recherche, d'un théâtre d'avant-garde, et contrairement à la plupart des comédiens de votre génération, vous êtes allé dès le départ au-devant de ce théâtre.
Oui, par choix, par goût, par envie. Je trouve que le théâtre, ça doit être une recherche. Je crois que si c'est simplement un spectacle, ça ne suffit pas. Enfin, moi, ça ne suffit pas et je trouve que ça ne suffit pas pour le théâtre.
Comment jouez-vous? Est-ce que vous entrez, comme on dit, dans la peau de votre personnage? Est-ce que vous oubliez tout pour n'être que votre personnage ou bien vous restez lucide sur la scène?
Complètement lucide.
Vous voyez jouer?
Oui, oui, absolument. Et je trouve que c'est... comme ça qu'il est intéressant de faire ce métier. D'abord, on fait l'acteur, comme on dit en italien. Et je trouve que, au point de vue travail aussi, pour voir ce qu'on propose au public, car finalement, c'est très culotté de se montrer en public et de leur imposer d'entendre quelque chose. Je trouve qu'il faut aussi être le maximum lucide et comprendre ce qu'on fait.
Quand vous jouez Alceste, vous êtes à la fois Alceste et Michel Piccoli. Michel Piccoli, regardant Michel Piccoli jouer Alceste.
Ah oui, complètement. Complètement.
Et ça ne vous dérange pas?
Pas du tout. Quelquefois, même j'ai un peu de scrupule, je me dis... Tout en étant complètement... C'est ça, je trouve, le vrai dédoublement. Le vrai dédoublement n'est pas de se mettre dans la peau de... d'un personnage et de laisser sa propre peau au vestiaire, en coulisses, dans la loge. Le vrai dédoublement, je crois que c'est quand on joue, c'est d'être vraiment double.
Vous savez qu'on dit qu'il y a des acteurs diderotistes et des acteurs réjanistes, ou des actrices réjanistes.
Oui, mais moi je serais...
Diderotiste.
Diderotiste, oui.
Maintenant, quels sont les rôles que vous n'avez pas joués et que vous aimeriez jouer maintenant à 44 ans?
Justement, je me pose la question. Oui. Je rêverais peut-être de... du Roi Lear. Parce que je me souviens avoir vu Laurence Olivier jouer le Roi Lear, que j'y pense encore et que... Je me dis, tiens, si
et c'est
je
le
pouvais...
seul personnage de Shakespeare qui vous tente en ce moment?
Oui, ça, il me tente depuis que j'ai vu Laurence Olivier. Dans le répertoire classique français, j'aimerais beaucoup jouer Orgon, et non pas Tartuffe.
Justement, j'allais vous demander si Tartuffe ne vous tentait pas.
Bien sûr, mais je trouve Orgon un personnage extraordinaire, tout aussi important que Tartuffe, et qu'on oublie. On fait toujours d'Orgon un ridicule parce qu'il est sous une table et... qu'il entend, sans murmurer, sa femme se faire courtiser. Mais il n'y a pas que ça dans Orgon. C'est finalement le centre de la pièce. C'est la maison d'Orgon, dans laquelle arrive un intrus, mais c'est Orgon.
Vous savez, en jugé par vos activités de ces 7 ou 8 dernières années, il semble que vous n'ayez pas réussi à mener de front une double carrière à la scène et à l'écran. Et je crois que vous avez sacrifié un peu le théâtre au bénéfice du cinéma.
Oui. D'abord, j'avais joué tellement de pièces. J'ai, depuis 1946, où j'ai commencé à jouer, jusqu'à 1964-1965, Le Vicaire, je n'ai jamais arrêté de jouer. J'avais tellement travaillé au théâtre que j'étais saturé.
Et ça ne vous manque pas?
Et ça me manquait beaucoup. C'est bien pour ça que j'ai...
accepté.
Jouer ce misanthrope. Et pourquoi je jouais ce misanthrope avec Marcel Bluval? Parce que ça, c'est encore une recherche. Et que, comme disait Pierre Freinet, je crois qu'il a dit ça, jouer les grands classiques, c'est dangereux parce que d'autres l'ont joué tellement merveilleusement. Pourquoi se réattaquer à ça? Moi, j'oublie que un tel a joué merveilleusement Alceste, tant pis.
Et vous savez qu'avec un tel raisonnement, personne ne se permettrait de reprendre un personnage du répertoire.
Bien sûr, bien sûr. Moi, je jouerai volontiers un jour le neveu de Rameau, et Dieu sait si Freinet est irremplaçable.
Vous n'avez jamais été tenté par la mise en scène?
Si, beaucoup au théâtre, je n'ai pas encore eu le culot de le faire. Je me suis d'abord beaucoup consacré à mon métier d'acteur, et ça demande beaucoup, beaucoup de travail, et de concentration, et de... Il faut travailler beaucoup. On ne peut pas faire les deux.
Est-ce qu'il y a des metteurs en scène que vous admirez plus que d'autres au théâtre?
Oh oui, bien sûr. Il y en a un que j'admire particulièrement, c'est Roger Blin.
Vous avez travaillé avec lui?
Hélas, jamais.
Il ne vous a jamais mis en scène?
Jamais, non. Jamais. Oui. Mais je l'admire beaucoup parce que bon, le choix des pièces qu'il monte me convient très bien. Et surtout, c'est un homme solitaire qui n'est attaché à aucune école et qui a le bonheur de faire ce qu'il fait quand il a envie de le faire.
Vous avez déjà 22 ou 23 ans de métier derrière vous, Michel Piccoli. Vous avez une cinquantaine d'œuvres dramatiques, une trentaine de films, dont quelques-uns très très importants. Et pourtant, vous avez fait une carrière tout de même très difficile. Pendant une quinzaine d'années, au théâtre, vous étiez très apprécié des connaisseurs et pratiquement, non pas ignoré, mais presque du grand public. C'est le cinéma qui vous a aidé à vous faire connaître et la télévision, mais c'est le théâtre qui vous a formé. Eh bien, pendant cette longue période d'attente, j'appellerai la période des semailles, si vous voulez, est-ce qu'il ne vous est pas arrivé d'être un peu découragé, de songer à tout quitter, à renoncer au métier?
Découragé, oui, ça oui, mais renoncer, non. Je m'étais quand même vaguement donné une limite, comme ça. Quand on n'a pas de succès public, il faut bien avouer que c'est un peu ennuyeux ou inquiétant ou gênant ou attristant pour un acteur.
Oui, maintenant que les gens se retournent dans la rue sur votre passage, est-ce que ça signifie quelque chose pour vous? Est-ce que ça...
Bien sûr, ça signifie quelque chose. C'est en même temps très satisfaisant et aussi très gênant. Pourquoi est-ce qu'ils ne se retournaient pas sur moi quand je jouais les naturels du Bordelais?
Parce que vous jouiez les naturels du Bordelais devant une centaine de spectateurs.
Oui.
Et parfois devant moins.
Oh, oui.
Alors qu'un film, un grand film ou une dramatique à la télévision, eh bien vous avez des millions de spectateurs qui vous ont vu, qui vous reconnaissent.
Mais ce n'est pas non plus complètement rassurant. C'est rassurant dans un sens, parce qu'on se dit, si je fais quelque chose, ça dépend aussi comment on vous reconnaît. Si on vous reconnaît chaleureusement, quel bonheur finalement. Ça prouve que ce qu'on a fait plaît. Je ne parle pas seulement de moi, mais ce à quoi j'ai participé.
Je voudrais ouvrir une petite parenthèse, et je m'en excuse, pour vous parler de quelqu'un qui vous était très cher. Je crois que vous avez été un des deux ou trois meilleurs amis d'André Drichaud.
Ah là oui, il a eu beaucoup d'amis. Mais j'étais le dernier, oui, un des derniers, oui.
Oui. Parlez-moi un peu d'André Drichaud.
Oh, c'est un des plus grands écrivains, enfin... Non, c'est pas un des plus grands écrivains, puisqu'il est très peu connu. Mais un des manières de la langue française les plus merveilleux. Et c'était un homme qui avait un haut mal. Il a été très malheureux dès sa jeunesse, d'un enfant du Midi, qui a eu de grands malheurs avec sa famille, qui est monté à Paris, et qui a été toujours, on dit, la bohème. En fait, il était toujours clochard, un peu, clochard de l'existence. Et un espèce de grand seigneur en même temps. Un espèce de grand seigneur clochard. Et il disait toujours qu'il voulait écrire une pièce, ça fait 4 ans de ça, qui serait appelée « Les inconvénients de la séduction ». Il avait une telle séduction, et dans son écriture, et dans son comportement, qu'il a souffert de ça. Il a eu une époque très brillante quand il est venu à Paris, et que Dulin a monté des pièces de lui. Sa première pièce s'appelait « Village ». Et puis Marcel Herrand a monté une écube de lui au Mathurin. Et puis il était très ami avec Fernand Léger. Et puis toute l'époque, la belle époque, Cocteau, Delteil, tous ces gens-là, c'était avant la guerre. Moi je l'ai connu quand Michel Deray a monté une pièce de lui qui s'appelait Les Reliques, une sorte de chef-d'œuvre, qui se jouait avec les aveux les plus doux. Et là j'ai connu André Drichaud et je suis tombé amoureux de lui. D'ailleurs, tout le monde tombait amoureux de lui. Et puis, je l'avais perdu de vue. Je l'avais installé dans le Midi à une époque. Quand je l'ai connu, il vivait rue des Canettes, dans un hôtel, dans une chambre...
Près de Saint-Germain.
Dans une chambre, c'est même pas descriptible. Enfin, c'était vraiment le lit de fer et...
Avec quoi vivait-il? De quoi vivait-il les dernières années de sa vie?
Il vivait d'expédients, il vivait de mendicité. Les gens lui donnaient de l'argent, il en demandait. Il en demandait très peu, d'ailleurs.
Et qu'est-ce qu'il en faisait?
Il n'a jamais été profiteur. Il allait boire un peu, et puis il faisait des cadeaux.
Est-ce qu'il se droguait?
Non, pas du tout.
Non.
Non, non.
C'était seulement...
Non. Sa drogue intime et intérieure lui suffisait amplement.
L'alcool aussi.
C'était l'alcool, oui. Oui, il était tout à fait alcoolique. Alcoolique, mais... Oh, c'était... À un moment, je ne pouvais plus rien faire. La seule chose que j'ai faite, c'est de lui acheter un cercueil... et de l'emmener dans une déesse confortable, transporteur de cercueils, ce qui était assez... L'une des choses que j'ai faite, c'est... Il se trouvait à la... Comment ça s'appelle? La chambre froide à Montpellier, là où il est mort. Comme moi, je travaillais... Pas la morgue, non. Il aurait pu être à la morgue, finalement. Ça aurait été très bien. Et on m'a annoncé à moi qu'il était mort. Et je travaillais, je ne sais plus comment je me suis débrouillé, j'ai pris des avions et des voitures. Et je suis arrivé trop tard la nuit, parce qu'au téléphone, on m'a dit... André Drichaud est mort, ben je dis, je viens, je peux venir tout de suite. Bon, est-ce que vous le prenez avec vous? Ça a l'air encore d'une farce, je ne comprenais pas très bien. Et j'ai compris, ça se fait dans quelques hôpitaux où on peut prendre un mort avec soi. Et je suis arrivé trop tard, non pas pour le prendre, mais pour le voir, et je me suis retrouvé... J'aurais très bien pu me retrouver dans mon hôtel avec Montpellier, avec Drichaud mort sous le bras. Et comme il fallait que je revienne à Paris, je l'ai installé dans une... Non pas à la morgue... mais dans une chambre froide, dite de luxe, de Montpellier, avec comme m'a dit l'entreprise des pompes funèbres, il y a une musique très douce, très délicate. Voilà. Et il est resté là 24 heures tout seul. Il y avait juste Delteil, qui habite Montpellier, qui allait le voir.
Et son éditeur, non ?
Morel, oui, bien sûr. Il y avait à l'enterrement deux ou trois personnes de Montpellier, ou deux journalistes de Montpellier, Delteil, Morel et moi. Mais j'ai pas fait assez pour lui, d'ailleurs. Personne n'a fait assez pour lui.
Vous avez fait beaucoup pour lui.
Oui, mais pas assez. C'est ce genre de gens, on ne le fait jamais assez. Et puis on renonce. Et dans son livre « Je ne suis pas mort », il m'insulte, d'ailleurs. Mais ça, il m'insultait aussi dans la vie.
Pour en revenir à Michel Piccoli, puisque vous parlez de la séduction d'André Drichaud, vous savez qu'on dit depuis plusieurs années, Michel Piccoli, c'est le séducteur. Ça ne vous ennuie pas, quoi.
Soyons francs, au point de vue cinématographique, hélas, ça aide. Parce que, bêtement, c'est le premier atout du cinéma, ce que je trouve odieux. Buñuel n'a jamais besoin de personnages particulièrement séduisants pour faire ses chefs-d'œuvre. Lui-même l'est suffisamment, d'ailleurs. Et en même temps, ça m'a ennuyé, oui, parce que je me suis dit, je vais être prisonnier de cette espèce d'emploi héroïque qui, quelquefois, peut tourner à la dérision. La séduction, c'est très important, mais quelquefois, c'est très dérisoire. Puis ça, on l'emploie un peu à toutes les sauces. Mais ça, j'y ai échappé. Oui. C'est entre autres pour ça que j'ai joué peut-être aussi le délire à deux, la pièce de Ionesco. Oui. Comme c'était le contraire de la séduction, et qu'en plus j'avais jamais joué de Ionesco, et que c'était un exercice de style.
Vous aimez le théâtre de Ionesco ?
Il y a quelques pièces extraordinaires, oui. Je trouve qu'il se dessèche beaucoup.
Les premières pièces ?
Oui, les chaises, des splendides.
La leçon,
comment s'en débarrasser ?
Amédée, c'est ça. Vous connaissez le théâtre de Beckett aussi, puisque vous avez assisté à la création.
Oui.
Vous avez été un des tout premiers au Théâtre Babylone à assister à la création de ce que l'on considère comme l'un des chefs-d'œuvre du théâtre de notre temps, en attendant Godot. Oui. Le théâtre de Beckett vous touche aussi, autant que celui du Ionesco ?
Peut-être plus encore. Peut-être plus, parce qu'il est encore... Il est plus vigoureux et plus... Ça a plus de rigueur.
Quand vous ne jouez pas, enfin, vous êtes très pris, mais quand vous ne tournez pas, vous avez quelques soirées de libre, quelques journées de liberté. Qu'est-ce que vous en faites ? Vous lisez des manuscrits ?
Oui, ça prend beaucoup de temps.
Oui.
Et puis, comme je suis marié, fort heureusement, avec une femme qui voyage beaucoup et qui travaille beaucoup, nous nous courons après, et dès que nous avons les soirées libres ensemble, nous restons bêtement ensemble.
Il faudrait dire à l'intention de nos auditeurs que votre femme est la grande vedette de la chanson, Juliette Gréco.
Oui, nos loisirs sont de nous retrouver.
Et je crois que vous aimez l'équitation.
Oui, j'ai fait beaucoup d'équitation, beaucoup de sport.
Vous pilotez aussi des avions.
J'ai appris à piloter un avion, oui.
Vous arrivez de faire des voyages solitaires, des traversées ?
Non, parce que je n'ai pas le temps non plus.
Vous avez une vie de famille ?
Ah oui, tout à fait. Et d'aucuns nous taxeront de bourgeois, mais comme on a la chance d'avoir une maison à la campagne à côté de Paris, au lieu de sortir, on se précipite pour jouer dans la maison de campagne. Regarder le chien, voir si le lapin va bien, et manger quelques carottes du potager.
Je vous disais tout à l'heure, et ça sera ma dernière question, Michel Piccoli, que vous avez connu tout de même une période assez difficile. Votre carrière s'est faite par paliers. Vous avez eu une période difficile au théâtre, puis au cinéma. Et puis, vint un moment où tout a marché, bien marché pour vous. Je crois que maintenant, à 44 ans, vous êtes à une étape, peut-être l'étape la plus intéressante de votre vie de comédien. C'est peut-être l'étape de la moisson. J'aimerais bien savoir s'il vous est arrivé de faire le bilan de ces 22 ou 23 dernières années, depuis vos débuts.
Oui, je le fais, bien sûr. D'abord, je n'ai absolument pas la notion de ces 22 années. Si, je sais que j'ai fait des progrès, je sais que j'ai une notoriété plus grande, mais je ne veux pas m'en laisser encombrer. Je vais continuer, bien sûr, je serai incapable de faire un autre métier.
Est-ce que c'est le théâtre ou le cinéma qui vous a enrichi le plus ? Qui vous a apporté le plus ?
Le cinéma m'a beaucoup apporté. Je ne parle pas sur le plan de la...
La technique.
Mais sur la technique d'acteur.
Oui. La télévision aussi. Alors.
Et la télévision, la même chose.
Mais s'il vous fallait choisir, une question absurde.
Oh, le théâtre, tout de suite.
Sans hésiter.
Ah oui. Tant que j'aurai la force de me faire entendre et d'articuler, Eh bien, je ferai du théâtre.
C'était Entretien avec Michel Piccoli, au micro de Moussa Abadi, une émission diffusée la première fois le 9 octobre 1969 sur France Culture.